Les As de la CoPro, la séquence politique.
J'ai une question pour la séquence politique. Il y a une proposition de loi qui a été faite par un groupe de 15 députés, je crois, LR. Le copropriétaire, mauvais payeur. Alors, mauvais payeur dans la proposition de loi, c'est en retard de 2 trimestres, je crois, au moment de l'Assemblée générale ou au moment de la convocation de l'Assemblée générale, serait interdit de droit de vote en Assemblée générale. Voilà, boum, sanction, tu payes pas, tu votes pas. Bonne ou mauvaise idée ? Sabrina.
Moi, j'ai un avis sur la question qui est de dire que le droit de vote, à mon sens, c'est un droit fondamental pour lequel, enfin, qui est défini par la Constitution, mais dont la question a déjà été posée, d'ailleurs, pour lequel on dit effectivement qu'il peut y avoir des juridictions peut-être plus compétentes qui pourraient définir si ce droit de vote, en tout cas la limitation d'un droit de vote, peut, dans certains cas, être appliqué. À mon sens, je pense qu'elles existent déjà. En plus, cette limitation de vote pour des copropriétaires, notamment débiteurs, si, pour ce cas de figure, notamment dès lors qu'on a des saisies immobilières ou autres, si ça empêche le vote d'une saisie immobilière, il a une restriction sur, sur le vote, donc il ne pourra pas...
Ou la règle de la réduction de majorité de voix du copropriétaire majoritaire. On touche à son droit de vote.
L'article 22 également, la réduction... Tout à fait. Et il y a aussi le mandataire ad hoc. Dès lors qu'on a une copropriété en difficulté et qu'on a plus de 25% de copropriétaires, en tout cas débiteurs, on peut saisir aussi un mandataire ad hoc qui, lui, va avoir tout pouvoir pour agir. Je pense que ce droit est déjà finalement exercé. Moi, je pense qu'on aurait plus intérêt... Enfin, je dis ça, c'est un vœu pieux peut-être, mais en tout cas, on a plus intérêt à accélérer les procédures de recouvrement, à trouver des solutions. J'ai pas toutes les toutes.
Parler du budget de la justice.
Voilà, exactement. Mais en tout cas, il y a des moyens qui existent. Par contre, ils sont longs à mettre en œuvre, et c'est ce qui pénalise effectivement aujourd'hui le fonctionnement des syndicats de copropriété et pas que.
Alexis, comment ça se passe ailleurs? Le système existe déjà?
En fait, oui, en Espagne, ça existe déjà, en fait. Hein, les copropriétaires qui ne sont pas à jour de leurs charges, alors ils peuvent prendre part à l'Assemblée Générale, hein, mais ils n'ont pas le droit de vote. Sauf effectivement s'ils ont apuré leurs dettes, sauf s'ils ont consigné judiciairement la somme d'argent, ça y recouvre leur droit de vote. Mais c'est des choses qui existent dans certaines législations en Europe et dans le monde. Donc sur le principe...
En Espagne,
le cas que je cite, c'est le cas espagnol. Après, c'est sur les modalités pour notamment la manière dont la proposition a été rédigée. Après, ce sont les modalités pour déterminer ces deux impayés, puisque on peut avoir aussi des cas de figure où le copropriétaire aura des dettes antérieures. Donc, à partir de quand on va déterminer...
Sur les modalités, on est bien d'accord. On parle du principe, là.
Hein. Sur le principe, le droit de vote est un droit, mais le droit, il y a un corollaire, c'est des obligations. Une des principales obligations d'un copropriétaire, c'est d'être aussi à jour de ses charges pour le fonctionnement du syndicat de copropriétaires. Donc, je trouve que le principe est plutôt intéressant.
On est bien d'accord. On imagine bien l'esprit de la proposition de loi. Pierre-Edouard, le but, c'est d'être dissuasif. Le but, c'est de mettre la pression. Qu'en pense l'avocat ?
Moi, je suis profondément contre cette...
Choqué, même.
Oui.
Je suis profondément contre cela. Je comprends qu'on puisse y penser. C'est légitime. Un copropriétaire qui ne paie pas, finalement, on se dit que c'est un mauvais copropriétaire. Et dès lors, a-t-il le droit au chapitre lorsqu'on prend des décisions alors qu'il n'accepte pas de financer le syndicat des copropriétaires ? Je comprends qu'on pose la question, mais il y a tellement de situations différentes. Il y a le copropriétaire qui n'a pas été touché par les notifications du syndic parce que le syndic se trompe d'adresse. Ça n'arrive que très peu souvent. Enfin, ça arrive. Il peut y avoir aussi le copropriétaire qui est dans une situation délicate et passagère, financière, qui a des difficultés ponctuelles. Pourquoi le priverait-on d'une des composantes essentielles de son droit de copropriété? Parce que le droit de copropriété se manifeste par l'expression collective de la décision. Si on dit à un copropriétaire qu'il ne peut plus voter, alors il n'est plus rien. Il est propriétaire d'une partie privative, mais il n'est plus alors copropriétaire. Or, il faut rappeler qu'un copropriétaire, c'est un indivisaire. Et on ne prive pas un indivisaire de son pouvoir. Alors, on peut l'amoindrir dans certains cas, dans certaines situations justifiées. Par exemple, la saisie-vente dont il a été question. Mais le priver définitivement de son droit de vote parce qu'il aurait 2 trimestres de retard, pardon... Mais, non.
Mais c'est vrai que l'entorse existe déjà avec la saisie immobilière, hein, donc ça veut dire que ça, quelque part, ça existe déjà, Mathieu.
Ouais, moi je voudrais juste ajouter un point. Alors, d'abord, je suis complètement d'accord, contrairement à à la question précédente avec Pierre-Edouard. Mais au-delà de ça, je pense qu'une telle mesure risquerait d'être contre-productive. L'objectif, je crois, c'est de favoriser le vote des travaux hein, et de dire que les copropriétaires qui ne payent pas leurs charges seraient des freins en votant contre toute décision de travaux. Alors d'abord, je pense que quand un copropriétaire minoritaire ne paye pas ses charges, s'il est minoritaire, il ne va pas poser de problème. Enfin, je dirais la résolution pourra être adoptée grâce à la majorité des copropriétaires qui payent bien leurs charges. Et si on a une majorité de copropriétaires qui ne payent pas leurs charges, je pense qu'il vaut mieux ne pas engager de travaux parce que là, le syndicat des copropriétaires va au-devant de grosses difficultés. À mon avis, il y a peut-être un cas où ça pourrait résoudre une situation complexe, c'est quand c'est un copropriétaire majoritaire qui ne paye pas ses charges, où là, effectivement, l'exclure du vote permettrait peut-être de prendre des décisions. Mais ça ne réglerait pas la question du financement des travaux. Et je pense que la meilleure solution, c'est, outre le fait qu'en plus, ça viendrait rajouter de la complexité dans la gestion des copropriétés, des cas de contentieux supplémentaires, qu'est-ce qu'on fait si finalement on a pris en compte les voix du copropriétaire qui n'a pas payé ses charges? Est-ce que c'est une cause d'annulation de la décision? Enfin, ça va rajouter de la complexité, ça va stigmatiser. Je pense que ce qu'il faut, en revanche, et les syndics ont une responsabilité là-dessus, c'est dans les procédures de recouvrement de charges, lorsque le fait qu'un copropriétaire n'ait pas payé ses charges cause un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, eh bien, il faut demander l'indemnisation de ce préjudice. Et quand un copropriétaire majoritaire, parce qu'il ne paye pas ses charges, et en général, il a les moyens de payer ses charges dans ces cas-là, j'allais dire, entrave complètement le bon fonctionnement du syndicat, il faut impérativement qu'il soit condamné à verser des dommages-intérêts et que ça lui serve de leçon.
Ah, de lourds dommages-intérêts et pas juste 300-400 euros comme je vois passer là dans les décisions en ce moment.
Il y a un exemple aussi, toujours pareil, hein, de l'Espagne, hein, puisque l'Espagne, en Espagne, de mémoire, je crois qu'on affiche dans les parties communes, les copropriétaires débiteurs. Alors, je ne sais pas si.
Bah déjà, il faut joindre avec la convocation, il faut joindre la
on
liste.
Joint déjà, mais le fait que ce soit affiché, que ce soit vu tout le public. Bon, je ne sais pas si ça existe encore là-bas, mais c'était.
Oui, oui, ils ont un temps d'avance, on va dire, en Espagne. Alors, ça me ou pas. ça me permet d'enchaîner là sur la deuxième question de la séquence politique et on finira là-dessus. On a 5 minutes. On est toujours un peu dans la même idée. C'est l'USGC, l'Association des grandes copropriétés, qui en a parlé dans une interview, mais un grand groupe aussi DB, Nexity, pour pas le citer, l'évoquait également. Là, on est sur la problématique des rénovations globales de copropriétés qui prennent 3, 4, 5 ans. C'est un processus qui est très long, avec beaucoup, beaucoup de travail. On en parlait tout à l'heure des frais à engager avant même que les travaux ne démarrent, sur les études intellectuelles, le droit de surplomb, le maître d'œuvre, etc. On arrive à l'Assemblée Générale, tout le monde est d'accord, tout le monde s'est mobilisé, le conseil syndical et le syndic ont passé des heures en réunion préparatoire avec tous les intervenants. Et là, on a un copropriétaire. Donc, les travaux sont votés. Les travaux sont enfin votés. Et là, on a un copropriétaire qui conteste dans le délai de 2 mois pour faire annuler la résolution. Et il bloque tout, puisqu'on sait le temps judiciaire. C'est une procédure qui va durer 2-3 ans, peut-être plus. Et tout va être gelé à cause de cette simple contestation. Et l'idée c'était de réserver le droit de contestation de l'Assemblée Générale, c'est-à-dire l'article 42, non plus à un seul copropriétaire, où on serait à la merci, le syndicat serait à la merci d'un seul copropriétaire, mais le réserver peut-être à un petit groupe de copropriétaires, un peu comme l'idée de la convocation de l'Assemblée Générale, c'est un quart des copropriétaires ou le conseil syndical qui est en droit d'exiger la convocation d'une AG. Alors maintenant, on en a parlé sur la dernière émission, un seul copro peut le demander aussi, mais ce serait un peu le même esprit. Pierre-Edouard,
c'est le même
un petit groupe, alors je ne sais pas, hein, un quart des copros, un tiers des copros, ou au moins 2 copropriétaires, pourquoi pas.
J'ai le même avis que pour la première question.
Oui.
C'est un droit qui est attaché à la qualité de copropriétaire. Si la décision est mauvaise, elle est mauvaise. Si elle est viciée, elle est viciée. Le syndic, le conseil syndical, l'assemblée n'avait qu'à prendre une bonne décision sur un bon dossier de travaux. Et au fond, la question, elle peut se régler différemment, mais peut-être que l'USGC a été mal conseillé. Mais les décisions d'assemblée générale sont exécutoires. Il y a un délai pendant lequel on ne peut pas exécuter, qui est le délai de 2 mois. Mais le texte ne nous dit pas que parce qu'il y a une action judiciaire, on ne peut pas exécuter les travaux. Si la décision est impeccable, si le dossier était très bon, si tout a été fait dans les règles, qu'y a-t-il à craindre de la justice?
Alors, vous êtes mon avocat, vous allez me conseiller de, malgré tout, quand même signer les marchés à 3 millions d'euros, bien qu'il y a le risque d'une annulation.
Le risque qui se mesure. Si la convocation est hors délai, non, on ne prend pas le risque. Mais si la, si la
il y a toujours l'aléa, un aléa judiciaire.
Mais il y a toujours un aléa, mais on peut régulariser une assemblée générale qui ratifie les travaux qui sont exécutés, qui les vote à nouveau. On peut multiplier les décisions. On a des moyens de sauver la décision. Et puis quand on regarde la jurisprudence, elle est tout de même... Alors certes, on peut toujours faire annuler une décision générale, mais la jurisprudence est de plus en plus favorable au sauvetage de l'Assemblée, surtout quand il y a des décisions importantes pour un syndicat. On peut l'expliquer, les magistrats, certes, apprécient le formalisme, mais ils ne sont pas dans un formalisme bête. La loi le précise maintenant, d'ailleurs, les erreurs matérielles ne sont sans incidence. Il y a quand même un vrai principe de faveur pour l'Assemblée générale.
Oui, mais en fait, on peut avoir quand même quelques difficultés pratiques, notamment compte tenu du montant du marché. Pour le peu qu'il y ait un financement collectif aujourd'hui, vous êtes obligé auprès des organismes qui proposent ce financement de signer une sorte de certificat de non-recours.
Une attestation de non-recours.
Donc en fait, il faut avoir... Alors du cran, effectivement, les décisions de l'Assemblée générale sont exécutoires. Il faut avoir le cran de passer le cap, puisque les enjeux sont tels, même si on peut considérer que les magistrats seraient peut-être plus favorables au syndicat des copropriétaires, ça n'en est pas moins, pour le professionnel que nous sommes, un risque extrêmement fort.
Mais je crois qu'un c'est peu nous de, qui sommes signataires du marché.
Un peu de courage, un peu d'audace ferait meilleur effet qu'une privation des droits.
Ouais, alors moi, sans aller jusqu'au courage et à l'audace quand il y a 3 millions d'euros à engager, je ne sais pas si je l'aurais. Je rejoins néanmoins complètement Pierre-Édouard. Je ne vois pas pourquoi on dirait oui, la résolution est irrégulière, mais comme il y a un seul copropriétaire qui s'en plaint, ce n'est pas grave. Enfin, c'est évidemment inacceptable. En revanche, je pense qu'il y a deux axes sur lesquels on peut travailler.
C'était pour éviter les procéduriers. Hein. Et d'ailleurs, oui, je crois qu'il y a même une précision.
On a tous connu des procéduriers qui, pour simplement retarder la mise en œuvre ou pour perturber le fonctionnement du syndicat des copropriétaires, engagent des procédures. Mais là, je pense qu'il faut que les tribunaux soient extrêmement sévères. Ce sont des procédures abusives et il faut que, là encore, les syndicats demandent des dommages-intérêts.
Et dans l'idée, c'était aussi le copropriétaire qui est défaillant, c'est-à-dire il n'est pas là. Il n'est pas là, il ne vient pas à l'Assemblée générale, il s'en désintéresse totalement, il est là juste pour contester.
Mais c'est, encore une fois, il faut réussir à établir les raisons de cette contestation. Est-ce qu'il y avait une irrégularité ? Auquel cas, il a raison, malheureusement. Et s'il y a une irrégularité, il a raison. Est-ce qu'il n'y a pas d'irrégularité ? Et là, pourquoi est-ce qu'il a engagé une procédure ? Si c'est juste parce que la décision ne lui plaisait pas, il faut qu'il soit durement sanctionné parce qu'il a causé un préjudice et il faut demander l'indemnisation de ce préjudice. Mais sur la question, vous disiez tout à l'heure, il y a toujours un risque d'annulation parce qu'on peut toujours trouver une cause. Je pense que le deuxième axe vraiment principal, et là, c'est le législateur qui peut intervenir, c'est de simplifier les modalités de prise de décision. Il y a certainement beaucoup de choses à faire. Je pense notamment à la suppression de la passerelle. On parlait de la passerelle tout à l'heure. À quoi sert la passerelle aujourd'hui, à part compliquer les choses et peut-être créer des axes de contestation? Les modalités de prise de décision. La jurisprudence change tout le temps. Est-ce qu'on peut voter groupé, pas groupé? Est-ce qu'il faut voter sur toutes les résolutions, pas toutes les résolutions? C'est hyper compliqué. Il faudrait simplifier ça. C'est possible. Et puis, on parle des délais de contestation. Aujourd'hui, on est de plus en plus planté par les délais de la Poste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beau convoquer à 30 jours, 35 jours, quelquefois il faut 10 jours, 15 jours pour que les convocations soient distribuées. Il y aurait une mesure très simple qui serait de dire que c'est la date de dépôt en poste qui fait partir le délai.
Ou imposer la LRE.
En tout cas, trouver une autre solution. Ou imposer la LRE électronique, en tout cas en faire le principe, parce que le système de notification électronique aujourd'hui est beaucoup plus rapide et on maîtrise beaucoup mieux.
Et sécurisé.
Enfin voilà. Alors je ne dis pas que toutes les solutions proposées ici sont les meilleures, mais oui, la notification électronique, en faire le principe, ça sécuriserait énormément les convocations d'AG. Et c'est plus vers ça, simplifier les prises de décision. Il faut aller plutôt que de retirer des droits à des copropriétaires, ça c'est sûr.
Je vous remercie, c'était un débat passionnant. Alexis de Coster, à nouveau bienvenue.
Merci.
C'était un plaisir de vous revoir. Je rappelle que vous êtes responsable métier syndic ADB, Crédit Agricole, Service Immobilier, Pierre-Édouard Lagrelet, avocat au barreau de Paris et de Bordeaux, Mathieu Mialaret, directeur métier ADB syndic chez Foncia et Sabrina Meghetti, responsable d'agence chez Quadral. Je vous remercie beaucoup.
Merci.
Et vous souhaite une très bonne journée à tous.
Merci, Gilles. Au revoir, à bientôt.
Merci.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.